Vie, il y a souvent des menaces, vous êtes d'accord avec moi? Il y a des menaces, nous sommes quelquefois menacés, il y a des malheurs, des problèmes, des difficultés qui nous ébranlent. Nous sommes ébranlés quotidiennement par plein de choses. Cette semaine-ci, ça n'a pas arrêté. C'est normal, c'est la vie normale du chrétien. Alors, nous allons lire la parole. La prière d'Ézéchias nous permettra à Dieu d'éprouver notre motivation ultime. Merci de mettre la deuxième dia. C'est normal que ce n'est pas très clair, qu'il n'y a pas moyen de mettre plus de clarté, non. On ne sait pas faire mieux. Hein. Voilà. Oui, ça c'est peut-être. Il n'y a pas moyen d'agrandir non plus. Hein. On ne sait pas faire mieux. Hein. On ne peut pas faire mieux. OK. OK. Donc, 2 Rois chapitre 18. Je vais vous le lire, hein, comme ça vous avez plus facile. Vous êtes plus à l'aise avec le texte. Hein, si vous savez lire, c'est bien. Cependant, le roi d'Assyrie qui se trouvait à Lachish. Comment? Ah oui, c'est 2 Rois chapitre 18. 2 Rois chapitre 18, à partir du verset 17. J'aurais voulu qu'on lise là parce que bon, on changera. Il y a des moments où on change de verset. Attention, il y a des. C'est trop long, c'est trop long. Donc j'ai dû prendre des petits morceaux parce que le problème, on ne va pas lire 3-4 chapitres ici, on ne peut pas. Mais voilà, donc on a simplifié quand même les choses. Vous pouvez voir cela dans 2 Rois, vous pouvez encore retrouver cela dans Ésaïe au chapitre 39, etc., 38, 39, etc. Donc voilà. Cependant, le roi d'Assyrie qui se trouvait à Lachish, en voyant au roi Ézéchias à Jérusalem, le général en chef, le chef d'état-major, ainsi que son propre aide-de-camp, à la tête d'une troupe importante. Dès qu'ils arrivèrent devant la ville, ils se placèrent près du canal du réservoir supérieur sur la route qui mène au champ des blanchisseurs et demandèrent à parler au roi. L'aide-de-camp assyrien leur dit: « Allez transmettre à Ézéchias ce message du grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle belle confiance tu as là. Tu t'imagines que de simples paroles tiennent lieu de plans de bataille et de courage pour faire la guerre? Sur qui comptes-tu pour oser te révolter contre moi ?» Alors Éliakim, fils de Hilkia, Shepna et Yoa demandèrent à l'aide de camp assyrien: « Parle-nous en araméen, s'il te plaît, nous le comprendrons. » C'est au verset 26. « Évite de t'adresser à nous en hébreu, à cause de tous les gens qui sont sur la muraille en train de nous écouter. » Mais l'aide de camp lui répondit: « Croyez-vous que le message de mon maître soit destiné seulement à votre maître et à vous? Il concerne aussi tous ces gens qui se tiennent sur la muraille et qui, comme vous, n'auront bientôt plus que leurs excréments à manger, leur urine à boire. » Puis l'aide de camp se dressa et cria de toutes ses forces en hébreu: « Écoutez le message du grand roi, le roi d'Assyrie. Ne vous laissez pas tromper par Ézéchias. Il est incapable de vous arracher à mon pouvoir. Il prétend qu'il faut faire confiance au Seigneur, que celui-ci vous sauvera sûrement et m'empêchera de prendre cette ville. » N'en croyez rien. N'écoutez pas Ézéchias. Écoutez plutôt ce que je vous propose, moi le roi d'Assyrie. Cessez toute résistance et rendez-vous à moi. Alors chacun de vous pourra profiter de sa vigne, de son figuier et de l'eau de sa citerne. Plus tard, je viendrai pour vous emmener dans un pays comme le vôtre, un pays riche en blé pour le pain, en vigne pour le vin, en olivier pour l'huile et même en miel. Ainsi, au lieu de mourir ici, vous pourrez vivre là-bas. N'écoutez donc pas Ézéchias, car il vous égare lorsqu'il prétend que le Seigneur vous sauvera. Les dieux des autres nations m'ont-ils empêché de mettre la main sur leur pays? Qu'ont-ils fait les dieux de Hamath et d'Arpad et ceux de Sepharvaïm, de Héna et d'Ava? Quelqu'un m'a-t-il empêché de prendre Samarie? Parmi tous ces dieux, aucun n'a pu m'interdire de mettre la main sur son pays. Comment le Seigneur m'empêcherait-il alors de prendre Jérusalem? Tous ceux qui étaient là gardaient le silence. Ils ne répondirent pas un mot, car tel était l'ordre du roi Ézéchias. Puis Éliakim, fils de Hilkia, et chef du palais royal, le secrétaire Shebna, et Yoa, fils d'Azaph, et porte-parole du roi, après avoir déchiré leurs vêtements, revinrent auprès d'Ézéchias et lui rapportèrent ce que l'aide de camp assyrien avait déclaré. Alors nous allons regarder la suite. La réponse à la menace, une prière épurée des besoins charnels. La réponse à la menace, une prière épurée des besoins charnels. Chapitre 19, verset 1. Dès que le roi Ézéchias eut entendu le rapport, il déchira lui aussi ses vêtements, prit la tenue de deuil et se rendit au temple du Seigneur. En même temps, il envoya le chef du palais Éliakim, le secrétaire Shebna et les prêtres les plus anciens chez le prophète Ésaïe, fils d'Amoth. Quand les envoyés du roi Ézéchias eurent accompli leur démarche auprès d'Ésaïe, celui-ci leur dit « Allez rapporter à votre maître ce que déclare le Seigneur. Tu as entendu les officiers du roi d'Assyrie m'insulter. N'aie pas peur de ce qu'ils ont dit. Le roi va recevoir une nouvelle. Je lui inspirerai alors de retourner dans son pays et là-bas, je le ferai mourir assassiné. » Deux rois 19, verset 8. Le Rabshakeh s'en retourna et trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna, car il avait appris son départ de Lachish. Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka, roi d'Éthiopie. On lui dit « Voici qu'il s'est mis en marche pour te faire la guerre. » Alors il envoya de nouveau des messagers à Ézéchias. Verset 14. Ézéchias prit la lettre de la main des messagers, la lut et monta à la maison de l'Éternel. Ézéchias la déploya devant l'Éternel. Ézéchias pria devant l'Éternel et dit « Éternel, Dieu d'Israël qui siège sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, c'est toi qui as fait les cieux et la terre. Éternel, prête l'oreille, écoute. Éternel, ouvre les yeux, regarde. Écoute les paroles de Sennachérib qui a envoyé le Rabshakeh pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont exterminé les nations et leur pays. Ils ont jeté leur Dieu au feu. En fait, ceux-là n'étaient pas des dieux, mais des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, sauve-nous donc de la main de Sennachérib et de tous les royaumes de la terre, et que tous les royaumes de la terre reconnaissent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. » La réponse de Dieu qui est honoré. Ça, c'est la troisième partie, verset 20. Alors Ésaïe, fils d'Amoth, s'envoya dire à Ézéchias, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sennachérib, roi d'Assyrie. Les rescapés, verset 30, les rescapés de la maison de Juda qui seront restés produiront encore des racines vers le bas et porteront du fruit vers le haut. Car de Jérusalem, il sortira un reste, et de la montagne de Sion, des rescapés. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. » Amen. J'ai entendu ta prière. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alors la menace nous assaille. Je vais mettre la dia suivante, si tu veux. Voilà, la menace ou l'épreuve qui nous assaille. Il y a des tas d'épreuves qui nous assaillent dans nos vies. Des tas d'épreuves, elles sont différentes, mais il y en a plein. Ézéchiel n'avait rien fait de mal et pourtant son ciel s'est tout d'un coup obscurci. La menace était à la porte. Le roi d'Assyrie venait déjà de faire la conquête du royaume du Nord, avait détruit Samarie, les avait déjà envoyés en exil, avait remplacé les populations par d'autres populations qui étaient venues dans le royaume du Nord. Et il vient dire au roi Ézéchias, ce que j'ai fait à Samarie, je vais le faire aussi à Jérusalem. Ne mets pas ta confiance et ne mettez plus votre confiance en l'Éternel. Il ne pourra pas vous sauver de ma main. C'est impossible. Je suis bien trop fort. Je suis bien trop puissant. Tous les dieux de toutes les nations n'ont rien pu faire et votre Dieu ne pourra rien faire. Alors, nous aussi, nous nous décidons pour l'obéissance. Ézéchias, il avait détruit tous les hauts lieux. Toute l'idolâtrie avait disparu du temps d'Ézéchias. Il avait fait revenir le peuple vers l'Éternel. Et il voulait vraiment qu'on serve le Seigneur. Il servait le Seigneur. C'était important. Et quelquefois, quand nous obéissons à Dieu, les problèmes s'accumulent. Tiens, comment est-ce possible? J'obéis à Dieu, je fais ce qu'il me demande, et pourquoi est-ce que j'ai des problèmes comme ça? Pourquoi est-ce qu'il vient des épreuves, des difficultés, des menaces? Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai ça? Les menaces, c'est quoi? Un médecin qui vient vous dire, ou qui vient dire à quelqu'un que vous aimez, « Monsieur, madame, vous avez le cancer. » Un échec scolaire va faire basculer toute une année. La relation extra-conjugale d'un conjoint, un enfant qui se drogue, la perte d'un emploi, une médisance sur votre dos, truc qui vient de vous salir, quelque chose qui se passe qu'on n'avait pas prévu. Vraiment, c'est arrivé, c'est là, c'est devant, et ça vous effraie, ça vous prend coup, ça vous dérange, ça vous met à terre. Vous êtes démoli, vous êtes sans force. C'est un cauchemar, mais le problème, c'est que vous le vivez avec des yeux ouverts. Et ça vous tenaille, la peur est là. C'est comme si tout s'effondrait. Les épreuves que Dieu permet sont là pour mettre à nu nos véritables motivations. Dieu permet les épreuves afin que nous soyons éprouvés et que l'épreuve de notre foi puisse rendre toute la gloire à Dieu. Jacques disait que l'épreuve de notre foi doit avoir pour conséquence la gloire du Seigneur et notre joie. Parce que Dieu, au travers de l'épreuve, va former la patience dans nos cœurs. Nous avons besoin de patience afin de pouvoir persévérer après avoir réussi, nous puissions surmonter l'épreuve qui est permise par le Seigneur. La raison qui pousse Ézéchias par rapport à sa prière, la raison qui le pousse à prier, c'est pas éventuellement la perte du trône. Ézéchias pourrait avoir peur de perdre son trône. Le roi de Samarie, il a perdu son trône. Il est exilé. Moi, je vais perdre aussi mon trône. C'est pas vraiment ça. On voit pas que chez Ézéchias, il y a une peur de perdre son trône. C'est même pas l'or des colonnes du temple qu'il va perdre. Mais il réalise la chose essentielle, c'est que le roi d'Assyrie est en train d'offenser le Dieu d'Israël. Et c'est l'honneur de Dieu qui est mis en péril. L'honneur de Dieu qui est mis en péril. Ce n'est pas l'honneur du roi Ézéchias lui-même et tout ce qu'il possède. Mais c'est l'honneur du nom du Dieu Tout-Puissant. Vous vous rappelez David, quand il avait été devant Goliath, c'était pas pour montrer qu'il était fort, mais c'est parce que l'honneur du nom de son Dieu avait été sali, mis à terre. Et c'est l'honneur du nom de Dieu qu'il voulait relever, c'est le nom du Seigneur qui doit être élevé. Nos épreuves manifestent les vraies motivations cachées au fond de nous. Pour certains, ils vont tout abandonner. L'épreuve va se solder par un abandon, par un repli sur soi. On va arrêter de lire la Bible, on va arrêter de prier, ça ne sert à rien. Finalement, Dieu n'a pas répondu, je suis dans la catastrophe, et bien, moi aussi, je vais l'abandonner d'abord. Mais pour d'autres, ce sera l'occasion d'exercer leur foi et de s'appuyer sur Dieu. S'appuyer sur Dieu et non pas se laisser aller, non pas s'isoler, se mettre dans sa bulle et se mettre en arrière. Au psaume 139, verset 23, David écrit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées, sonde-moi. » C'est notre prière. Dieu veut que nous puissions laisser Dieu sonder le fond de nos entrailles. Qu'est-ce qui se trouve ? Est-ce que je prie Dieu parce que je crois en la prospérité qu'il va me donner ? Ou je prie Dieu parce que j'ai envie de glorifier ? Je sais que Dieu veut être le premier, donc je veux adorer et honorer son nom en sachant que il ne me laissera pas dans le chaos. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Quand Dieu a demandé à Abraham d'offrir son fils, c'était pour sonder sa véritable motivation. Est-ce que tu aimes plus ton fils ou c'est moi que tu aimes plus ? Il faudra que tu me le dises par l'épreuve. Et l'épreuve de la foi va permettre que tu me répondes sur ce point précis. L'homme riche, il avait un problème et Jésus lui dit, c'est bien, tous les commandements que tu respectes, c'est super, c'est très bien, il n'y a pas de problème. Continue comme ça. Mais toi, va, vends tout ce que tu as et donne aux pauvres. C'était justement ce qu'il ne fallait pas dire. C'est justement ce qu'il cachait silencieusement au fond de son cœur. Comment est-ce que tu savais ça ? Oui. Oui. Parce que Dieu, il sonde. Et il voulait sonder Abraham. Mais il veut sonder chacun d'entre nous. Il veut savoir ce qu'il y a au fond de moi. Il veut savoir ce qui est au fond de toi. Qu'est-ce qui se trouve caché à l'intérieur de toi ? Qu'est-ce que tu caches et que tu ne veux pas révéler ? Mais Dieu va le révéler par l'épreuve. C'est l'épreuve de ta foi. C'est l'épreuve de ta foi. Éprouve-moi et connais mes pensées. Parce que comment est-ce qu'on révèle les pensées de quelqu'un ? Je n'ai pas à révéler vos pensées et vous n'avez pas nécessairement à les révéler. Mais Dieu, lui, il voudrait bien que vous puissiez lui révéler vos pensées. Lui, il est intéressé de savoir votre véritable motivation. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne tromperez pas Dieu. Dieu ne se trompe pas et il n'est pas trompé parce qu'il connaît tout. Tout est nu et terrassé devant celui à qui nous devons rendre compte. Il connaît les reins et les cœurs. Il sonde jusqu'au plus profond de nos motivation intérieure, ce qui nous fait agir. Et Ézéchias, il donne les menaces, les attaques. Il donne les menaces à Dieu. Tu vois comme ces menaces sont fortes, le roi Ézéchias. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. C'est la foi qui pourra nous permettre d'avoir les bonnes réactions par rapport aux circonstances que nous vivons. Nous avons des épreuves, nous sommes éprouvés. Si nous nous réfugions dans la parole de Dieu, nous serons sauvés. Si nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous laissons libre cours à la chair. Et vous savez que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Si vous vous éloignez de la présence de Dieu, si vous éloignez de la parole du Seigneur, vous ne lisez pas, vous ne méditez pas la parole de Dieu, vous vous confiez dans ce que vous désirez, premièrement, vous risquez de ne pas recevoir ce que vous désirez. La parole est claire à ce sujet. Réfugions-nous dans la parole du Seigneur. Le psaume 61, verset 3. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Tu es pour moi un refuge. C'est la parole de Dieu qui est un refuge, elle est un bouclier, la parole de Dieu. Parce qu'au centre de cette parole, c'est le Christ. D'accord ? Christ est la parole qui est venue dans le monde, qui a pris forme et vie dans un être humain qui est Jésus. Jésus qui est devenu, Dieu le Fils qui est devenu homme. Parfaitement homme, parfaitement Dieu. C'est Dieu qui est au centre de la parole. C'est Dieu qui est au centre de la parole. C'est Jésus qui est au centre de la parole. Et cette parole est une tour forte en face de l'ennemi. Si je me réfugie dans cette tour forte, je ne serai pas ébranlé. Dans cette forteresse, dans cette citadelle invincible de la parole de Dieu. C'est vrai que Pierre, il disait, à qui irions-nous d'autre ? Tu as les paroles de la vie. Mais à qui est-ce que nous pourrions aller ? Où est-ce que nous irions loin de la face du Seigneur ? Mais c'est la parole qui nous encourage. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu sans aimer sa parole ? Vous êtes vraiment mes disciples si vous demeurez dans ma parole. Dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Proverbe 18, verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Le nom de l'Éternel. Parce que le nom signifie tout ce qui concerne Dieu, le caractère de Dieu, les sentiments de Dieu, la vie de Dieu. Qui est Dieu en réalité? Tous les noms de Dieu, il y en a une multitude de noms pour nous aider à comprendre, pour nous aider à réaliser qui est Dieu, un Dieu extraordinaire. Le juste s'y réfugie dans le nom de l'Éternel. Il est une tour forte et il se trouve en sûreté. Nous sommes en sûreté dans le nom de l'Éternel. Si nous nous isolons, nous devenons vulnérables aux attaques du diable dans nos pensées. Si nous nous isolons en nous repliant dans l'apitoiement, en regardant tout ce qui ne va pas, perdons confiance. Et Proverbe 18, verset 14 dit ceci, « L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. » L'esprit de l'homme, quand il est fort et fortifié par Dieu, il est soutenu dans la maladie. Dieu refait le lit de celui qui est malade. Celui qui se confie en l'Éternel. Mais l'esprit abattu, qui le relèvera ? Proverbe 18, 24. L'esprit abattu, qui le relèvera ? Quand on est abattu, qui va nous relever ? Il ne faut pas attendre d'être complètement en bas pour commencer à lire la parole. Parce que quand vous êtes complètement en bas, vous n'avez plus de force aucune. Et vous voulez vous cacher pour qu'on ne vous voit pas dans cet état-là. Vous avez simplement besoin qu'on prie pour vous. Vous n'avez plus aucune force. Donc il ne faut absolument pas attendre d'être vulnérabilisé à ce point. Même si je suis bombardé par les mensonges de l'ennemi, je viens à la maison de l'Éternel. Si je suis bombardé par les mensonges du diable, je viens à la maison de l'Éternel. Et je ne reste pas comme Élie qui voulait s'isoler et mourir. Vous savez, Jézabel lui avait envoyé une menace sur sa vie. Il y avait une menace qui pesait. Mon vieux, ça va aller mal pour toi. Tu vas voir tout ce que tu as fait au prophète de Baal, mais ça va t'arriver sur ton dos. J'arrive, tu vas voir. Ça va saigner. Il a perdu courage. Il s'est sauvé. Il a laissé le découragement venir. Et il s'est isolé. Il est parti. Il s'est éloigné. Il s'est enfoui. Dans la solitude. Dans l'éloignement. Et il voulait mourir. Seigneur, reprends-moi. Je ne suis pas meilleur que mes pères. Il venait pourtant de... il n'y avait pas longtemps, il avait tué 450 faux prophètes de Baal et d'Astarté. Et 400 prophètes d'Astarté. Il avait une victoire extraordinaire. C'était fabuleux. Mais son regard n'est pas resté sur le Dieu Tout-Puissant. Il s'est contenté de voir une belle victoire. Et il s'est rassasié de cette belle victoire. Mais il devait continuer dans la foi. Parce que on ne sait pas ce que le lendemain peut engendrer. Le lendemain peut être plus dur qu'on avait pensé. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 4. Parce que la parole du roi est puissante. La parole du roi est puissante. Et qui est notre roi ? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur notre Dieu. La parole du roi est puissante. Elle est puissante. Jérémie, verset, chapitre 23, verset 29, un verset que vous devriez connaître. Indiquez-le sur une feuille, sur un cahier. Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu ? Dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Quelle puissance ! La parole de Dieu est puissante comme un feu. Nous voulons être remplis du feu de l'Esprit, vous voyez ? C'est la parole de Dieu. Remplissez vos âmes, remplissez vos esprits, remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Si vous avez des pensées dépressives, changez-les par les pensées de la parole. Si vous êtes dans une avenue de la tristesse et du découragement, allez dans l'avenue de la louange, changez d'avenir, changez d'adresse. Vous déménagez, c'est tout. Vous abandonnez cette avenue-là. L'avenue de l'apitoiement, oh, tu vois, Seigneur. Allez, changez, abandonnez. Vous déménagez, vous allez dans l'autre avenue. Celle de la louange et de l'adoration. Celle de la foi qui confesse le Dieu Tout-Puissant, qui change, qui transforme les circonstances. Nous n'avons pas à rester dans l'avenue de la tristesse, de la mélancolie, de l'abattement spirituel. Nous allons aller dans l'avenue, ensemble, dans l'avenue de la louange. Est-ce que vous voulez aller dans l'avenue de la louange ? Est-ce que vous voulez vivre dans cette avenue ? Vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Est-ce que vous voulez vraiment vivre avec le Seigneur et faire des expériences dans vos épreuves ? L'expérience de la victoire, l'expérience de la patience, l'expérience de la persévérance, l'expérience que Dieu ne ment pas et que tôt ou tard, Dieu répond. Mais il répond à sa manière et de la manière la plus fidèle, la plus merveilleuse qui soit. Je dois reconnaître mon état de faiblesse. Je dois reconnaître mon état de faiblesse. Ézéchias disait, ce jour est pour nous un jour d'angoisse, de punition, d'humiliation. Comme on dit, l'enfant est à terme, mais la mère manque de force pour le mettre au monde. La mère est enceinte et le bébé est à terme, mais la femme n'a pas la force de mettre au monde son enfant. Mais nous sommes tous des hommes et des femmes qui sommes enceints ou enceintes. Je ne sais pas si on peut dire enceint avec l'histoire du gender. Peut-être que bientôt ce sera possible. Mais hommes et femmes, nous sommes enceintes. On va dire ça comme ça. D'un projet, d'un rêve, de quelque chose de merveilleux que Dieu a placé sur nos cœurs. Et nous n'avons pas la force de mettre au monde ce projet merveilleux qui vient de la part de Dieu. Nous n'avons pas la force, parce que nous avons besoin non pas de force physique, de force humaine, mais de force spirituelle. C'est dans le domaine spirituel que je parle ici. Hein. Je ne parle pas de pour des hommes qui mettent au monde des bébés. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler au niveau spirituel. Nous avons des projets à mettre au monde. Et nous ne pouvons pas, sans l'aide de Dieu, l'accomplir, c'est impossible. L'enfantement spirituel a besoin de force spirituelle. Nos forces ne suffiront pas. C'est pour ça qu'il faut nous appuyer sur la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut louer le Seigneur. Parce que les forces des enfants de Dieu se renouvellent dans la louange. Ce n'est pas dans l'apitoiement que je vais renouveler mes forces. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 10. C'est pourquoi, disait l'apôtre Paul, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pardon, pour Christ. Car quand je suis faible, vous continuez le verset avec moi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est quand je suis faible et quand je reconnais ma faiblesse. Quand je reconnais ma faiblesse devant Dieu et la toute-puissance de Dieu, quand j'élève la toute-puissance de Dieu et que je réalise ma faiblesse, c'est alors que Dieu vient à ma rencontre. La force de Dieu vient dans ma faiblesse et vient m'animer de sa force. Tant que je crois être fort par moi-même, je vais rester faible. Et c'est normal, je vais être humilié dans ma soi-disant force qui n'est que faiblesse. Et je m'en rendrai compte dans l'épreuve. Cette faiblesse m'empêchera d'en sortir. Mais par la grâce de Dieu, je sortirai. Par la grâce de Dieu, en confessant ma faiblesse, Dieu va me donner la victoire et me fera sortir de toutes mes détresses. Par nos propres forces, nous allons avorter. Nous ne pourrons pas mettre au monde le projet de Dieu sur nos vies, la vision de Dieu sur nos vies. Les choses merveilleuses qu'il nous a proposées, les choses merveilleuses qu'il a décrétées sur nos vies, les choses merveilleuses qu'il nous a annoncées ne seront pas mises à terme, ne seront pas enfantées, mais nous allons avorter par nos propres forces. Mais par la force de Dieu, nous serons capables d'enfanter dans l'esprit. La prière d'Ézéchias réoriente La prière sur son cœur, sur le cœur de Dieu. La prière d'Ézéchias réoriente les yeux de la foi d'Ézéchias sont réorientés sur le Seigneur. Il y a une réorientation de notre cœur sur Dieu. Nous devons prendre la liste de toutes les menaces, les écrire sur une feuille. Voilà, mes menaces, mes problèmes, mes malheurs, mes souffrances, je vais les écrire. Je vais faire une liste. Faut apprendre à faire des listes de tout ce qui nous accable, de tous les problèmes qu'on veut voir changer et les donner à Dieu. C'est ça qu'il va faire Ézéchias. Il va prendre, il va noter tout. Il va prendre cette lettre du Rabshaké avec la menace écrite du roi d'Assyrie. Tout ça a été écrit et il va venir dans le temple l'apporter au Seigneur. Tu vois, je te donne cette menace. Ça, c'est la menace qui pèse sur nous. Je te la donne. Je ne vais pas la garder sur moi et rester dans l'effrayement. Mais je vais donner cette lettre de menace. Je vais les donner. Je vais les déposer à ses pieds. Et c'est exactement ce que les apôtres ont fait quand ils ont été menacés. Les apôtres, dans les Actes des apôtres, ont été menacés. Acte 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés car ils se rendaient compte que c'étaient des gens du peuple sans instruction. Ils le reconnaissaient pour avoir été avec Jésus, mais en voyant debout auprès d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, délibérèrent entre eux et dirent « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle notoire a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Donc Pierre et Jean avaient guéri le boiteux devant le temple. Mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Ils vont faire des menaces. Aux apôtres. Alors ils les appelèrent et leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu ? À vous d'en juger, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces. Et les relâchèrent sans trouver le moyen de les punir à cause du peuple. Tous en effet glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Verset 29. Et maintenant, Seigneur, et c'est dans leur prière, ils vont donner la menace devant le Seigneur. Ils vont dire, Seigneur, tiens, voilà la menace qui est sur nous, sur tes enfants. Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Sois attentif à leurs menaces. Acte 12, verset 13. Quand il eut frappé à la porte d'entrée, une servante du nom de Rhodes s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était là devant l'entrée et lui dire « Tu es folle ». Mais elle soutenait qu'il en était bien ainsi et dire « C'est son ange ». Cependant, Pierre continua à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. De la main, ils leur firent signe de se taire. Alors, c'est une histoire extraordinaire. Hein. Ils donnent la menace devant Dieu. Tu vois la menace qui pèse. Et puis, ils prient pour Pierre. Ils sont en train de prier parce que la menace est tombée à exécution. Ils ont mis en prison Pierre. Et ils ont prié pour que... Il y a même quelqu'un dans cette assemblée qui a osé prier. Seigneur, envoie un ange. Oh, tu es même capable d'envoyer un ange pour délivrer Pierre de la prison. Envoie un ange. Et Dieu l'a fait. Et il a été libéré. Il pensait que c'était un rêve. Lui, il s'est retrouvé à l'extérieur de la prison. Et puis, il est revenu de son étourdissement. Il a réalisé que c'était la réalité. Et il a réfléchi, il a été chez les disciples, il savait où il devait aller. Et puis il frappe, puis il y a une servante qui s'appelle Rhodes, qui entend la voix de Pierre, et qui n'ouvre pas, mais elle va vite prévenir les apôtres et dire, voilà, c'est Pierre qui frappe à la porte. Tu as perdu la boule, tu étais folle. Folle, quoi. Je vous le dis. C'est son ange. Ils ne savent plus quoi dire. Et puis, finalement, ils vont voir que Dieu a répondu. Il était là à la porte. Il a répondu. Dieu a répondu à la prière. Et ils avaient dit ceci, « Donne-nous de l'assurance pour annoncer l'Évangile. » La motivation, c'était que Dieu soit glorifié aux yeux de tous. Voilà la motivation des disciples dans les Actes des Apôtres, que Dieu soit glorifié. La motivation d'Ézéchias, que le nom du Seigneur ne soit pas blasphémé par les nations. Jacques, au chapitre 4, verset 3, écoutez ceci. « Et si vous demandez... vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Quand nous demandons, nous ne demandons pas pour notre unique plaisir, pour nos besoins personnels. Ils sont peut-être légitimes. Mais Dieu veut que nous prions afin que la gloire soit établie pour lui. Que ce soit pour sa gloire, que ce soit pour son honneur. Qu'il y ait plus d'âmes sauvées. Il y a des pasteurs qui voudraient avoir plus d'âmes dans leur église, plus d'âmes pour un plus grand ministère, pour une église plus reconnue sur la terre. C'est Dieu qui doit être reconnu. La motivation que nous devons avoir, ce n'est pas pour nous, pour notre ministère, pour notre ego, pour notre vie, qu'elle soit meilleure. Plus de confort, plus de bien. Mais que le nom du Seigneur soit sanctifié, que le nom du Seigneur soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Est-ce que nous prions avec cette intention Ou alors nous prions avec simplement, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien. Et c'est ce, nous en restons là. Notre pain quotidien, c'est là vraiment la grande prière. Ou est-ce que c'est le nom de l'Éternel qui doit être sanctifié dans nos vies? Est-ce que c'est ça qui compte pour nous? Ou alors c'est le pain quotidien? Est-ce que Dieu ne sait pas que nous en avons besoin? Nous voulons que nos amis soient touchés, que voulons être transformés. Est-ce que nous prions pour être transformés? Est-ce que nous prions pour que nos épreuves nous changent? Ou nous voulons simplement que les épreuves s'arrêtent? Ah Seigneur, enlève toutes ces épreuves, j'en ai marre. Mais Dieu a un but, ça a un sens. Et Dieu veut que je me mette à rechercher le sens de mes épreuves. Il y a un sens que je dois découvrir. Je dois peut-être demander pardon. Si j'ai perdu mon boulot, j'ai peut-être une mauvaise attitude. C'est peut-être pas forcément le diable qui a fait tout ça. Souvent, on accuse le diable pour plein de choses. Et quelquefois, c'est notre attitude qui est en défaut. Et Dieu veut corriger notre attitude au travers des épreuves. C'est trop facile de remettre sur le dos du diable des choses qu'il n'a même pas faites bien souvent. Et c'est vrai qu'il fait du mal aux enfants de Dieu, ça c'est clair. Mais quelquefois, on lui met sur le dos nos responsabilités, des choses qu'on n'a pas faites et qu'on aurait dû faire. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, c'est le diable, c'est les gens qui me persécutent. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment ça? Et je dois découvrir le sens qu'il y a derrière ce qui se produit. Le but, c'est que la gloire de Dieu se manifeste. C'est ça que nous devons rechercher, c'est ça que nous devons vivre, c'est ça que nous devons avoir comme désir suprême dans nos vies. Alors, Dieu répond quand il est honoré. Si nous avons des prières qui le déshonorent parce que c'est incorrect, parce que ça vise uniquement notre petit bien personnel, il est déshonoré par ça. Nous devons demander pardon, confesser notre péché, nos manquements. Nous avons eu des prières qui étaient juste pour nous faire plaisir, juste pour un peu plus de confort, juste pour un petit peu plus pour nous. Et ce n'était pas pour l'honneur de Dieu. Alors Dieu, il est capable de transformer toutes les circonstances. Il n'y a rien qui lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit, parce que tout est possible à Dieu. Donc si nous croyons en Dieu qui peut tout, alors tout est possible à celui qui croit. Parce que nous croyons en un Dieu qui peut transformer toute chose, déplacer les montagnes et les jeter dans la mer. Ézéchias ne s'est pas éloigné de la maison de Dieu. Il s'est rapproché de la maison de Dieu. Il est allé avec les sacrificateurs dans la maison de Dieu. Il n'a pas dit, je reste en retrait. Mais il est allé avec les sacrificateurs, avec le secrétaire, avec tous ces gens, tous ceux qui servaient le Seigneur. Il est allé dans le temple pour rechercher Dieu, pour chercher le Seigneur, pour le prier. Il s'est rapproché du Seigneur. Et trop souvent, les chrétiens se détachent du Seigneur. Ils sont éprouvés. Alors, ah, j'arrête de lire la Bible. C'est bon, c'est trop dur. J'arrête. J'arrête de venir à l'église. J'arrête pour un temps. Et les gens s'éloignent. Et c'est partout comme ça. C'est partout comme ça, sur toute la terre. C'est pas propre à Bonne-Villers. C'est partout, sur tous les continents, n'importe où. Et Esaïe dit, de la part de Dieu, j'ai entendu ta prière. J'ai entendu ta prière. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel. Et le zèle de l'Éternel, c'est extraordinaire, parce qu'il est capable de faire des choses extraordinaires. Avec David, il a fait quelque chose d'extraordinaire. David a tué Goliath, et il a mis une crainte, une terreur dans le camp des Philistins. avec Josaphat. Allez voir avec Josaphat, c'est extraordinaire. Ils ont loué le Seigneur, il y a eu une défaite de l'ennemi de manière incroyable. Et avec Ézéchias, l'ennemi va devoir retourner dans son pays parce qu'il y a des problèmes, des émeutes, il y a des guerres. Et il doit retourner dans son pays. Il ne peut pas rester. Le Seigneur s'occupe de la situation. Ma foi exclut l'apitoiement. Si j'ai la foi en Dieu, je la mets dans la parole du Seigneur, je la mets dans les promesses du Seigneur, je ne les mets pas dans ce que je vois. C'est pas ce que je vois qui compte. Et ce n'est pas seulement mon petit confort. Parce que Dieu va faire des grandes choses si je l'honore. Si je l'honore, Dieu ne va pas me laisser dans le besoin. Si je recherche le royaume de Dieu et sa justice, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi est-ce que je m'inquiéterais? Pourquoi est-ce que j'aurais peur? Peur de quoi? Et peur de qui? Que peut te faire un homme? Ce que Dieu a mis en moi a besoin de force spirituelle pour mener à bien l'enfantement. Je dois enfanter le projet de Dieu. Il y a un projet qu'on doit faire ensemble. Et il y a des choses qui sont particulières aux uns et aux autres et que vous devez accomplir. Et avec la force de Dieu, vous allez l'accomplir. Avec Dieu, vous aurez la victoire. Mais si c'est avec vos forces, je peux vous assurer, c'est impossible, vous n'allez pas y arriver. Vous n'y allez pas arriver. Non, ton rêve de servir Dieu n'est pas terminé. Ton rêve n'est pas fini. Il n'est pas à terre. L'ennemi a voulu le piétiner, d'accord. Mais le rêve, quand il vient de Dieu, il ressuscite. Hein? Si pour un temps il meurt, il ressuscite, c'est pour mieux ressusciter. Si ça vient de Dieu, personne ne pourra vous le détruire. Et quelquefois, il y a des projets qui doivent mourir avant de ressusciter. On a beaucoup d'exemples à ce sujet-là. Offre ton rêve au Seigneur. Offre vraiment ton sujet de prière, ta requête, ta liste de besoins, ta liste de problèmes, ta liste de menaces. Tu l'offres au Seigneur, tu la donnes. Et on va aller rechercher Dieu ensemble au temple, c'est-à-dire dans le lieu de sa présence. On va l'invoquer. Nous avons besoin d'une nouvelle révélation de sa part. Nous avons besoin de son zèle. Nous avons besoin de sa puissance. Attention aux zèles charnels. Que nous n'ayons pas de zèle amer. Dieu a un zèle, mais pour l'honneur du nom de l'Éternel. Que ce ne soit pas pour notre honneur. Ce sera un zèle charnel. Voulons pas de ce zèle-là. Voulons aller dans le sens de l'honneur de Dieu. Et laisser le zèle de l'Éternel nous conduire à la victoire. Si nous le glorifions, si lui est honoré, si lui reçoit toute la gloire, c'est lui qui doit recevoir toute la gloire. Il ne la donnera pas à quelqu'un d'autre. Il ne donnera pas sa gloire à qui que ce soit qui est ici. Sa gloire n'est pas partagée. La gloire de Dieu doit revenir à Dieu. Il ne l'offre à personne d'autre. C'est en Dieu que nous serons glorifiés. Parce que lui, il nous partage sa gloire. Mais la gloire doit lui revenir. Nous ne pouvons pas garder sa gloire. Nous ne pouvons pas prendre sa gloire. Nous ne pouvons pas faire les choses soi-disant pour Dieu et avoir la gloire et la prendre pour nous d'un autre côté. Nous devons lui donner. Nous allons prier pour que Dieu recentre notre prière, non plus sur nos besoins, mais sur la gloire que Dieu doit recevoir. Seigneur, nous voulons vraiment, Seigneur, que ce soit ta gloire qui soit au centre. Nous voulons recentrer notre prière sur ta gloire, sur ton honneur. Seigneur, nous voulons avoir la priorité, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton règne vienne régner, Seigneur, viens régner dans nos vies, transforme nos vies. Seigneur, qu'au travers de nous, Seigneur, des âmes puissent connaître Christ, qu'un plus grand nombre puisse te connaître, que nous soyons nous-mêmes changés, que nous soyons nous-mêmes changés au travers de nos épreuves, parce que tu as un but au travers des épreuves. Veux pas simplement éloigner les épreuves loin de nous. Et nous voulons accepter qu'elles ont un sens et que tu veux nous parler, Seigneur, si c'est pour nous repentir, nous voulons le faire.
c'est pour, si c'est pour être transformé, si c'est pour être changé, nous voulons accepter. Nous voulons être meilleurs, Seigneur, meilleurs qu'hier.